Flash, l'émission pop culture, jeux vidéo, manga, films, séries, animations, jeux de rôle et internet. Présenté par Mel J.A. un mercredi sur deux sur Radio G.
Sur Radio G et bienvenue pour ce deuxième épisode de Pop Flash avec Mel et JR. Je suis JR et je serai accompagné encore une fois de Mel pour cette émission. Salut Mel, comment tu vas?
Mais bonjour JR, bonjour les auditeurs et auditrices, j'espère que vous allez tous bien.
Aujourd'hui au programme, comme la dernière fois, du coup, nos chroniques qui vont devenir habituelles. On va commencer tout de suite avec Game Pop, puis ensuite on enchaînera avec Qu'est-ce qu'on lit, une petite pause musicale. On reviendra tout de suite avec Pop and Clap, on continuera avec Lancer les dés, on aura une deuxième pause musicale, puis on pourra tout de suite finir avec la rubrique Bric-à-Brac. Et aujourd'hui, au programme de la rubrique Bric-à-Brac, des questions posées par nos auditeurs, mais aussi quelques questions qu'on se posera entre nous. Je pense que j'ai fait le tour et on peut tout de suite commencer avec Game Pop. Actu et test jeux vidéo, c'est Game Pop avec Mel.
Les actus jeux vidéo du mois d'octobre sont une nouvelle fois chargés. Entre grosses sorties et dramas, on fait le point. On commence par les sorties, et comme pour septembre, il y a du très lourd ce mois-ci. Diablo 4 Vessel of Atred, ce DLC enrichit l'univers de Diablo 4 avec de nouveaux contenus qui raviront les fans d'action RPG. Silent Hill 2 Remake, le grand classique de l'horreur, revient avec des graphismes et une ambiance totalement remaniée, parfait pour les adeptes de frissons. Métaphore Refantasio, un RPG signé par les créateurs de Persona avec un monde fantastique et une narration captivante. Starship Trooper Extermination, un jeu de tir multijoueur où vous défendez la Terre contre des vagues d'aliens directement inspirées du film Starship Trooper. Dragon Ball Star King Zero, un jeu de combat explosif dans l'univers de Dragon Ball, idéal pour les amateurs de baston épique. Et ce n'est pas fini, la fin du mois réserve encore son lot de surprises avec Call of Duty Black Ops qui sort le 25 octobre. Et ce même jour, vous pouvez retrouver également Sonic X Shadow Generation prévu du coup pour le 25 octobre également. Life is Strange Double Exposure, rendez-vous le 29 octobre pour découvrir ce nouvel opus. Dragon Age The Veilguard, une nouvelle aventure vous attend le 31 octobre. Et enfin, Shadow of the Damned et la Remastered disponible aussi dès le 31 octobre. Retrouvez la liste complète des sorties d'octobre sur la page de notre émission sur le site de Radio G. Passons maintenant au gossip et drama qui secoue l'industrie du jeu vidéo ce mois-ci. Et attention, le thé est chaud. Souvenez-vous, lors de la dernière émission, on avait parlé de la Switch 2. Beaucoup d'infos restent au stade de rumeurs, dont une particulièrement intrigante. Il y a quelques semaines, une personne sur Twitter a prétendu avoir entre les mains un faux prototype de la future console. Parmi les fonctionnalités qu'il a découvertes, il mentionne une molette similaire à celle qu'on trouve sur les souris d'ordinateur, placée à l'arrière d'une des manettes horizontalement. Attention, cela semble assez fantaisiste et personnellement, je n'y crois pas une seule seconde. Cependant, Nintendo sait surprendre et la semaine dernière, ils ont dévoilé un tout nouveau produit, Alarmo. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un réveil officiel Nintendo, avec des fonctionnalités plutôt fun, détecteur de mouvement, sonnerie personnalisée avec des sons tirés de plusieurs licences comme Mario, Zelda Breath of the Wild, Pikmin, Splatoon et Ring Fit. Le mise à jour future permettra même d'ajouter Mario Kart et Animal Crossing à la liste. JR, qu'est-ce que tu penses de ce réveil? Parce que, on en parlera après, mais d'abord, Dis-moi ce que tu penses du réveil.
Alors, il y a du bon, il y a du moins bon. Déjà, juste, je veux revenir juste sur ce que tu as dit par rapport à la petite molette qu'il pourrait y avoir derrière une manette. Oui. Alors, ouais, micro, c'est vrai que Nintendo nous a déjà surpris sur ses designs, on va dire, fantaisistes. On se souvient de la Nintendo 64 qui n'était pas du tout pratique, mais mettre une molette derrière, ouais, enfin, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Autant sur PC, ça nous permet de naviguer un peu, autant sur... Bon, après, je suis pas vraiment le bon, mais sur console, je vois pas l'intérêt. Après, pour répondre directement maintenant, du coup, à ta question qui est qu'est-ce que je pense de l'Alarmo, ça peut être bien parce que ça nous permettrait peut-être un peu de nous détacher, en fait, de tout ce qui va être téléphone et sur le fait que certaines personnes disent qu'on est trop connecté. Je suis d'accord sans l'être vraiment, mais surtout, ça va dépendre du prix. Si tu me dis qu'ils le vendent à plus de 45-50 euros, je vais tout de suite aller prendre mon tube de lube et puis voilà, je vais faire passer la pilule. Hein.
Et ben justement, parlons du prix et on va jouer à un petit jeu, le juste prix JR. À ton avis, combien il coûte ?
C'est un réveil connecté ?
Alors, c'est un réveil plus ou moins connecté, oui. Il y a un détecteur de mouvement. Donc, en fait, le principe du détecteur de mouvement dans ce réveil, c'est qu'en fait, à partir d'une certaine heure, par exemple, si vous avez décidé que le réveil sonne à 7h du matin, eh ben, si à 7h du matin, il commence à détecter des mouvements, eh ben, il va directement se mettre à sonner jusqu'à ce que vous leviez. Et en fait, il arrête de sonner à partir du moment où vous levez.
Voilà. Bref, son réveil, quoi.
Oui, avec des détecteurs de mouvement, du coup. Ah,
c'est un réveil qui est fancy. Mais non, je dirais 60 balles maximum.
Eh non, il coûte... Alors, j'espère que vous allez me dire dans les commentaires ou sur Twitch, etc., peu importe. Dites-moi, les auditeurs et auditrices, combien vous pensez qu'il coûte ? Et attention, je vous le dis dans 3, 2, 1, il coûte 99,99 €.
Combien ?
Ouais. À 1 centime près, on est à 100 euros. Voilà. Est-ce que tu trouves ça raisonnable ?
100 balles pour un réveil ?
Ouais, ça fait mal. Ça fait un peu mal.
Qu'est-ce que je pense vraiment de ce prix ? Encore une fois, peut-être que certaines personnes le prendront mal, hein, mais je pense que payer 100 balles pour un réveil... Bah, j'ai quelque chose qui commence par un P et qui finit par un N et qui en fait se dit pigeon et 100 balles pour non mais ils sont sérieux. Ouais. Après on a l'habitude des différents créateurs de jeux vidéo qui prennent vraiment leur public pour des vaches à lait, mais là quand même c'est chaud. Genre on va dire déjà ils vont nous vendre une console qui sera en fait même pas au niveau des consoles qui sortent actuellement parce que c'est Nintendo et qui sont toujours à la traîne.
Ouais,
en plus ils nous sortent des jeux qui sont au mieux bon, au pire médiocre. Bonjour encore une fois Pokémon Arceus. Ils le vendent à des prix qui sont indécents. Ils sont ultra procéduriers. Et là maintenant, ils sortent en réveil à 100 balles.
Après, je sais pas ce qui justifie le prix. Je connais pas le prix du marché des réveils. Donc voilà, je pense que personnellement, c'est un peu cher pour un réveil. Parce que je n'ai pas cet argent-là. Mais si t'as l'argent pour, et ça peut être très fun. Et je dois avouer que se lever au son d'Animal Crossing, je trouve ça sympa.
Tu veux te lever au son d'Animal Crossing ? Tu vas sur internet, tu télécharges la musique d'Animal Crossing et tu l'utilises pour ton réveil. Et puis
ouais,
c'est simple.
Vrai,
le prix d'un réveil aujourd'hui, c'est simple. En fait, le prix d'un réveil aujourd'hui, en règle générale, il est gratuit parce que tu achètes ton téléphone pour ça. Non, vraiment, ils nous prennent pour des vaches à lait. Je le disais déjà la dernière fois, j'ai du mal avec la com du Nintendo. Vraiment. Vraiment, vraiment. Autant là, on en parlera du jeu Zelda, il a l'air d'être cool. Autant j'ai l'impression que dernièrement, ils nous ont sorti de la merde.
Je sais pas, les gens sont plutôt ravis du réveil. J'ai l'impression, peut-être pas du prix, mais en tout cas... du réveil, ils sont plutôt ravis, sachant qu'il n'est pas achetable en physique pour l'instant, donc on ne peut pas le trouver à la Fnac, etc. Je crois qu'il faut le commander via le e-shop, il me semble.
Ils vont nous dire quoi après que c'est qu'en fait, quand tu payes les 100 balles, c'est pas vraiment pour l'avoir, c'est juste pour faire une. Non, désolé, je suis salé. C'est des choses qui arrivent pour moi. Acheter ce réveil, c'est comme acheter un iPhone tous les ans, ça ne se fait pas.
Bon, passons au reste du thé parce que le reste du thé est très très bouillant. League of Legends Worlds 2024 a été au cœur de la polémique. Une erreur lors du tirage au sort de la phase suisse a abouti à un match déséquilibré entre BLG et NLG. Riot Games a refusé de refaire le tirage, provoquant la colère des fans. La communauté est déjà frustrée par les récents problèmes chez Riot, comme les licenciements massifs et la grève SAG-AFTRA. Je ne sais pas comment ça se prononce, honnêtement.
Ce qui a SAG-AFTRA.
SAG-AFTRA.
Ouais, okay. D'accord, ouais, j'en ai déjà entendu parler.
Ce qui a alimenté encore plus le feu sur les réseaux sociaux. L'erreur du tirage a vraiment marqué les esprits. Beaucoup de fans dénoncent une baisse de la qualité des événements e-sport, surtout dans le contexte actuel de l'entreprise. Est-ce que tu penses qu'ils ont bien fait de ne pas refaire le tirage? Sachant que du coup, ça a donné un match déséquilibré.
C'est une question qui est plus compliquée que ça, parce que du coup, en fait, la grogne, elle touche pas uniquement ça. Elle touche un paquet de sujets qui ont été traités en fait au cours des dernières années. J'étais joueur de LoL, je suis quelqu'un qui est très fan du lore et du coup j'ai beaucoup suivi en fait les dernières actus, même si j'y joue plus du tout. Et moi je pense qu'ils auraient dû refaire le tirage parce qu'en fait une erreur on la reconnaît et on fait ça, surtout que le match était déséquilibré. Mais en fait on touche un problème qui selon moi est beaucoup plus profond. On voit que Riot Games depuis un certain temps va de plus en plus, comment dire, décélérer niveau qualité. On va avoir de plus en plus de champions qui vont être un peu moins, même si moi je les adore personnellement, hein. J'adorais Aurora qui est sortie il y a pas longtemps, mais qui sont peut-être un peu moins inventifs, même si leur gameplay l'est toujours. On a vu un certain nombre de licenciements, notamment sur l'équipe du lore, alors que c'est un des plus gros points forts du jeu, parce que bon. Voilà, le lore de League of Legends, il est riche, il est beau, et on va, en novembre, on en parlera, mais Arcane en fait partie.
Oui.
Et sans lore, en fait, je pense que LoL n'aurait pas autant de succès aujourd'hui. C'est aussi pour ça qu'ils l'ont fait par rapport à ce qu'il y a au début. Après, encore une fois, voilà, là, on parlera plus précisément de Riot. Je pense que son changement de directeur a été une véritable plaie pour ce qui est de la compagnie, parce que c'est pas quelqu'un qui a, selon moi, une vision artistique, mais ce n'est que mon avis. Et, voilà, je pense que tout simplement, c'est pas une bonne idée. Je pense que les Worlds, c'est un des plus gros, voire le plus gros événement e-sport qu'il y a aujourd'hui. Il y a beaucoup d'argent qui sont en jeu. Si dès le début, même s'ils vont pas gagner, parce qu'on va pas se mentir, des équipes suisses, elles vont jamais plus loin que les poules. C'est pas cool pour eux et ils auraient dû le refaire.
C'est clair.
Je suis plutôt de l'avis du coup moi du public, mais en fait je suis curieux d'avoir ton avis aussi.
Moi, je pense que s'il y a eu une erreur et que ça a fait un match déséquilibré, il faudrait peut-être refaire. Après, est-ce que les deux équipes étaient en accord avec le fait de pas refaire le tirage, etc. Ça, j'ai pas réussi à trouver l'information, donc je peux pas savoir si les deux équipes d'e-sport sont ok avec ça. Bon, on peut rien faire d'autre. C'est pas juste, mais si c'est comme ça, c'est comme ça. Et tout, s'ils sont d'accord, même si je trouve ça personnellement pas très sympa, quoi.
Pour moi, la question que tu poses, elle est vraie, mais en fait, encore une fois, les équipes vont pas être d'accord, parce que ne serait-ce que pour celle qui a perdu, qui était du coup, qui devait pas se battre contre l'autre équipe qui a gagné, à mon avis, tout lieu de leur poser la question là, ils vont te dire tout simplement, on nous a volé notre match. Et c'est vrai, on leur a volé notre match.
J'ai essayé de trouver des informations un peu plus sur ça, mais j'ai pas trouvé. Donc, si vous avez des informations, n'hésitez pas à nous le dire. Donc voilà. On passe au dernier drama. Une fuite choquante autour de Pokémon. Des documents internes de Game Freak révèlent une histoire inédite sur Typhlosion, un Pokémon de la deuxième génération, où il aurait kidnappé une jeune fille humaine pour créer un hybride mi-humain mi-Pokémon. Ce scénario a choqué de nombreux fans et déclenché un tsunami de mèmes et de critiques. Attention toutefois, certaines de ces fuites sont totalement fausses, comme celle qui prétend que la 10e génération de Pokémon serait un mix entre une ancienne et une nouvelle génération pour être compatible avec l'ancienne Switch et la Switch 2. Voilà, donc comme quoi, il faut faire attention avec les leaks. Et je rappelle que c'est illégal de partager les leaks, donc ne partagez pas, surtout les images. Vous pouvez transmettre les informations, les rumeurs, etc. Mais n'oubliez pas qu'il ne faut jamais transmettre les images, car c'est illégal.
Leaker, voilà. C'est mal, les enfants. Juste comme ça, pour rebondir sur ce que tu as dit. En mix entre Pokémon et Allemagne, dinguerie dans ce que ce soit en film ou un truc, ce serait une dinguerie. Mais, non, ne liquez pas les enfants, c'est dangereux. Est-ce qu'il y a d'autres choses ou est-ce qu'on peut passer du coup à la suite?
Non, j'ai fini, c'est la fin de la chronique Game Pop et je laisse maintenant la parole à JR. Je vous rappelle juste qu'on est sur Radio G Angers 101.5 FM et vous êtes sur Pop Flash.
Et la radio est aussi disponible en DAB+. Et maintenant que cela a été rappelé, on va tout de suite passer à notre deuxième chronique. Et du coup, la chronique Qu'est-ce qu'on lit ?
Préparez vos marque-pages, c'est l'heure de Qu'est-ce qu'on lit avec JR.
Alors, qu'est-ce qu'on lit aujourd'hui ? Aujourd'hui, on lit en comics. Un comics qui sera assez sombre. Et on lit en manga qui sera assez sombre lui aussi. Mais on va commencer tout de suite avec le comics qui s'appelle Joker Harley Criminal Sanity. C'est écrit par Camille Garcia et c'est illustré par Miku Suyahan. Pour ce qui est de ce que c'est tout simplement, c'est une relecture moderne du mythe de Harley Quinn et du Joker. On suit Harleen Quinzel, une profiler de génie au sein de la police de Gotham, qu'elle a intégré à la suite du meurtre de sa colocataire qui a été tuée par le tueur en série que l'on nomme le Joker, qui a disparu depuis 5 ans quand l'histoire commence. Sauf que quand l'histoire commence, évidemment, un certain nombre de crimes ont été faits qui laissent penser que le Joker revient. Mais qu'est-ce qu'on pense, nous, de Harley Joker, Criminal Sanity au sein de Pop Flash? Je vais donner mon avis, puis après je laisserai Kézia Lucy donner le sien. Personnellement, j'ai beaucoup aimé, c'est une relecture qui est très, très réaliste de Smith, dans lequel on va voir évoluer différents personnages qui sont tous, pour la plupart, bien écrits. Le fait que ce soit très proche de notre réalité rend le tout assez glauque, on va pas se mentir. Il y a un certain nombre de scènes qui sont assez choquantes et c'est pour ça que, encore une fois, je la proposerai à un public qui est averti. On va voir beaucoup de body horror, mais on va voir aussi beaucoup de personnages qui vont profondément mal. Ça va parler de plusieurs trigger warnings, ça va parler de suicide, ça va parler de meurtre, ça va parler de décès, ça va parler de maltraitance et ça va parler de torture. Vous êtes prévenus. Ensuite, est-ce que du coup pour le reste c'est bien si ce n'est ça? Oui, c'est très bien, il y a une vision de Batman qui est intéressante parce que, encore une fois, Batman existe dans cet univers, sauf que Batman c'est pas comme dans les comics où en fait il fait tout ça et ça n'a pas d'effet sur la population. Dans un certain nombre de scènes, on va voir Batman évoluer tout simplement, je suis en train d'essayer de pas spoiler en fait en même temps que je vous le dis. On va voir Batman évoluer dans un certain nombre de scènes et en fait au cours de ces scènes on va voir directement l'impact que ça a sur la population. Ce que fait Batman peut être vu comme bien et pour beaucoup de personnes est considéré comme quelque chose qu'il faut faire, mais les répercussions que ça a sur la population nous font dire que peut-être que si Batman n'était pas là, en fait le monde se porterait mieux. Pour ce qui est des points positifs, comme je l'ai dit depuis le début, les personnages sont en très bon point positif. J'aime beaucoup la Harley qui est décrite dans cet univers parce que elle est moins tarée que ce qu'on pourrait voir dans les autres et du coup c'est intéressant de voir peut-être quelqu'un qui a une forme d'obsession qui n'est pas en fait cette espèce d'amour malsain qu'elle éprouve envers le Joker, mais qui est une obsession qui est compréhensible et où encore une fois on peut essayer de s'identifier en fait à ce qu'elle fait. Comment est-ce qu'on réagirait si nous, en nos proches, de se faire tuer par un tueur en série et que en fait 5 ans plus tard on se retrouve devant ce dit tueur? Il y a plein de choses qui sont bien, les dessins sont magnifiques, les scènes de crime sont parfaitement dessinées, le fait que entre les différents chapitres il y a un certain nombre de fichiers qu'on peut retrouver vraiment dans des enquêtes qui sont reproduites nous permettent d'avoir on arrive à s'immerger en fait dans l'histoire. Et enfin, dernière chose que j'ai beaucoup aimé, c'est le choix des couleurs. Il faut savoir que du coup la plupart du comics est en noir et blanc. Tout ce qui va se passer au présent est en noir et blanc et dès qu'il y aura des flashbacks, ce sera en couleur. Les seuls trucs qui seront en couleur en dehors des flashbacks, ce seront le maquillage du Joker. Ça donne tout de suite le ton du livre noir ou du récit noir et du coup ça colle parfaitement à l'univers. Pour ce qui est des points négatifs, je vais vous en dire quelques-uns puis après je passerai la parole à Kézial, à Mel. Et du coup, ce que j'ai moins aimé, c'est d'un côté le style de dessin, ironiquement, qui parfois m'a un peu dérangé dans le sens où c'est très réaliste, mais parfois ça vire un peu dans la vallée de l'étrange. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On voit que c'est quelque chose qui est très proche en fait de ce que serait vraiment un visage humain, mais qu'il y a quelques petits trucs qui font que ça va pas, ça colle pas. Et du coup, je sais que le style de dessin peut rebuter. Enfin, je sais que pour certaines personnes, l'ultra-violence qu'on va pouvoir y trouver et le fait que ce soit extrêmement gold peut aussi rebuter. Et enfin, je pense que dans certains cas, il y a beaucoup, beaucoup de textes et pour pas grand-chose. Mais maintenant que j'ai dit ça, bah, je vais laisser Belle, tout simplement, donner son avis. Dis-moi ce que t'en as pensé. Je sais que tu l'as pas fini, mais voilà.
justement, je l'ai pas fini. Alors, pas parce que j'ai trouvé ça nul. Je l'ai pas fini parce que c'était trop sombre et je l'ai lu à un moment donné où ça allait pas trop fort mentalement. J'arrivais pas à assumer la fin de ma lecture. Je pense que c'est très sombre, mais que c'est vachement intéressant de voir une autre relation entre le Joker et Harley, où justement, comme tu l'as dit, d'habitude, Joker et Harley, c'est une histoire d'amour obsessionnelle, un peu red flag, on va pas
un
se
peu,
mentir.
Elle est complètement red flag.
Harley est une victime.
Harley est une victime dans l'histoire normalement, mais je vais revenir à la fin pour la conclusion.
Mais voilà, et du coup, de voir que là, en fait, il n'y a pas d'amour entre les deux et que c'est vraiment une enquête policière, en fait. C'est littéralement ça. Et du coup, j'ai beaucoup aimé, mais vraiment, c'est les scènes graphiques et vu que le style. Style est très réaliste. Quand il y a des meurtres avec des éventrations, bon, voilà quoi, c'est graphique. Donc effectivement, c'est pas à mettre aux mains des plus jeunes et des plus sensibles. Moi, je sais que j'ai pas pu le finir. Je le finirai, ça c'est sûr et certain, parce que j'avais beaucoup aimé. Mais je vais être sûre de pouvoir le lire quand je suis dans un bon mood, parce que sinon ça va pas être possible.
C'est vrai que c'est assez pertinent. Et du coup, juste petit truc que je vais rajouter dans les points positifs. Pour une fois, on a en comics, enfin les comics c'est pas tant, mais on va dire une œuvre qui est récente, qui ne romantise pas cette relation. Et merci, mais merci. Enfin, je veux dire, je vais pas parler des différents films qui disent que le Joker aime Harley, que Harley aime le Joker, et que oh là là les papillons tout ça, parce que ça m'emmerde. Ils comprennent pas le personnage, ils comprennent pas la dynamique, et souvent ça détruit en fait, ça détruit le personnage parce que c'est pas le cas. Enfin, encore une fois, et ça peut-être que je vais passer un coup de gueule, mais les auteurs, surtout pour ce qui est des films, parce que pour l'instant les films sont merdiques quand elle apparaît dedans. Oui, il faut le dire à un moment. Lisez les comics et essayez de comprendre votre sujet avant de nous prendre une bouse. Désolé, petit moment qui est sur ça.
J'aimerais nuancer les propos de JR parce que je suis pas du tout d'accord. Je suis pas non plus une fan absolue de leur relation d'amour, parce que je pense que c'est pas bien de romantiser les relations red flag. Mais j'ai toujours trouvé ça intéressant. J'ai toujours trouvé leur dynamique entre Harley et Joker intéressante, et j'adore en savoir plus et lire. Je suis particulièrement fan des comics de Harley en fait, et tout ce qui est en rapport avec son personnage. Donc voilà, je mets des nuances aux propos de JR.
Je vois le temps et du coup faut qu'on avance, mais en fait
oui,
encore une fois dans tout ce qui est comics Harley, justement il n'y a pas ça, et c'est très bien, mais oui voilà, encore une fois c'est bien de nuancer mes propos. Bon, dans l'ensemble, on vous conseille ce comic, c'est un très bon comic qui est assez réaliste, mais qui est pour un public averti. Et maintenant que ceci est dit, ah oui, j'ai oublié de dire où c'était édité. C'est édité chez Urban Comics, qui est une très bonne maison d'édition. Maintenant que cela est fait, on va passer tout de suite à la deuxième lecture, qui du coup, encore une fois, une lecture qui n'est pas à mettre entre toutes les mains. On a tous les deux lu. C'est un manga qui est sorti en deux tomes et qui est terminé, qui s'appelle Les Péchés de ta copie. Les Péchés de ta copie, ça raconte l'histoire de ta copie, un petit extraterrestre qui est arrivé tout droit sur Terre. C'est un extraterrestre qui est joyeux et qui a pour mission de répandre la joie et la bonne humeur partout dans l'univers. C'est mignon, pas vrai? Manque de chance pour lui, il tombe sur Shizuka qui est une enfant triste pour des raisons qui sont pertinentes et qui va le mettre en fait à remettre en question sa manière de penser. Est-ce que c'est bien? Oui, les péchés de ta copie, c'est bien. Il y aura des points négatifs qu'on pourra évoquer plus tard. Moi et Mel, on n'est pas complètement d'accord là-dessus. Mais non, dans l'ensemble, c'est bien. C'est juste que c'est un manga qui est extrêmement dur, qui traite de sujets durs, encore une fois, qui traite de maltraitance infantile, qui va te parler de suicide, qui va parler d'harcèlement à l'école. Ça peut créer un certain nombre de trigger warnings. Donc, pour les personnes qui veulent le lire, renseignez-vous avant bien. parce que j'ai connu des personnes qui l'ont lu et qui sont vraiment senties mal. Mais encore une fois, moi je le conseille, les dessins sont beaux, les dessins sont à la fois extrêmement simples et extrêmement détaillés. Tout ce qui va être expression des personnages est parfaitement retranscrit. Et pour cela et pour l'histoire et pour la manière dont c'est traité, parce que c'est traité avec beaucoup de justesse, je vous conseille Les péchés de ta copie. Par contre, si vous n'êtes pas fan des histoires qui tirent, qui sont un peu tire-larmes, je vous dirais peut-être de passer votre chemin, parce que celle-là va clairement, parfois dans certains cas, pousser à essayer de tirer une larme. Après, c'est quelque chose qui est rapide. Nous, on a une très belle édition. L'autrice est une autrice qui est très bien. C'est son premier manga qui a été édité ici. Et pour ce qui est de son Tentai 5, c'est le premier truc. Et si vous prenez du coup la perfect édition, vous aurez un petit one shot en plus. Mais ça, c'est pas la question. Moi, je vous conseille Les péchés de ta copie, à part si du coup vous êtes trop sensible ou que vous n'avez pas les histoires un peu mélodrames. Après, voilà, mets-toi ton avis.
Moi, j'ai adoré Les péchés de ta copie. Effectivement, du coup, l'autrice, je savais que c'était une femme. Tanzai 5, du coup. Je l'ai dit en français parce que bon, mon accent anglais est pas ouf. J'ai beaucoup aimé. C'est vrai que les expressions faciales du dessin, elles sont incroyables. Alors, par contre, effectivement, il y a des trigger warnings, et notamment sur le harcèlement scolaire. Donc voilà, encore une fois, une lecture à pas mettre dans toutes les mains, et le fait que ce soit en deux tomes, ça se lit vraiment rapidement.
Voilà, c'est tout pour qu'est-ce qu'on lit aujourd'hui. C'était encore une fois deux lectures qu'on a aimées, ce sera pas toujours le cas. Vous verrez qu'après la pause musicale qui arrive tout de suite, on sera peut-être un peu plus salé. Mais en attendant, on vous laisse tout de suite avec la balade des sorcières qu'on peut retrouver dans une série qui est pour l'instant sur Disney. On se retrouve tout de suite, on se retrouve dans 5 minutes, et avant de partir, étant donné que ça va être de nouveau 15 minutes, vous êtes sur Radio G, 100.5 FM, c'est une radio qui est disponible en DAB+, aussi, et vous écoutez Pop Flash. À tout à l'heure!
Our love was forged in fire, water, earth, and air. The spell is cast, how long it lasts, I cannot divine. The road is there, and so I dare to risk this heart of mine. Down, down, down the road, down the witch's road. Down, down the road, down the witch's road. Down, down, down the road, down the witch's road. Follow me, my friend, to glory at the end. The power of midnight in the wood. I've danced inside the circle of all that's bad and good. The danger's great, the trials wait for those that seek the prize. Tame your fears, a door appears to love that never dies. As we go down, down, the witch's road. Down, down, down the road. Down the witch's road.
Down the witch's road.
Down, down, down the road. Down the witch's road. Blood and tears and bone together and alone. If I can't reach you, all you need to keep our love alive. If I can't hold you, remember what I told you. It's the only way we survive.
time. Still we face our fortune, chasing the sublime. What's lost is found, what's fierce is bound. We're broken and we're burned. But take a breath and dance with death. My love cannot be turned. As we go down, down, down the road,
down the witch's road,
down the witch's road,
down.
On est de retour sur Pop Flash avec Mel
et JR.
Et on va tout de suite enchaîner avec, du coup, notre petite chronique Pop and Clap. C'est parti. Action, émotion et un peu de popcorn, bienvenue dans Pop and Clap. Et du coup, pour Pop and Clap, bah du coup, Mel, vas-y, je te laisse commencer.
Alors, petit foreshadowing, parce qu'effectivement, la musique que vous avez entendue vient d'une série dont je vais parler aujourd'hui. C'est Agatha Allelang. Vous avez peut-être déjà entendu cette musique qui a fait le tour de TikTok, Instagram et des réseaux sociaux. Je les comprends car elle est accrocheuse, mais d'où vient-elle exactement? Eh bien, cette musique est issue du premier épisode de la série Agatha Allelang, qui se concentre sur le personnage d'Agatha Harkness, tiré directement des comics Marvel. Si vous êtes un fan comme moi de l'univers Marvel, vous avez probablement vu que cette série faisait suite à WandaVision. Mais de quoi ça parle exactement? Attention, je vais devoir spoiler la fin de WandaVision, je suis désolée, pour vous résumer l'intrigue de Agatha Allelang.
Alerte spoiler!
Alerte spoiler, effectivement. L'histoire reprend 2 ans après les événements de WandaVision. Agatha, maintenant policière, enquête sur le meurtre de mystérieux corps découvert dans la forêt. Rapidement, des souvenirs de son passé ressurgissent et elle réalise qu'elle est piégée dans une illusion. Cette illusion est brisée par un jeune adolescent dont l'identité est mystérieuse car il est maudit par un sort qui l'empêche de révéler qui il est vraiment. Alors qu'Agatha prend conscience qu'elle a été emprisonnée dans cette illusion pendant des années, elle décide de s'allier à d'autres sorcières pour emprunter le chemin des sorcières. Sur cette route, de nombreuses épreuves les attendent. Mais je ne vais pas en dire plus pour pas trop vous spoiler. J'ai adoré les 5 premiers épisodes de cette saison. Bien que celle-ci ne soit pas encore terminée, je ne pouvais pas attendre pour en parler, surtout avec Halloween qui approche. Les séries regorgent de ce que j'aime. Des personnages bien écrits, du mystère, du drame, de l'humour et des liens qui se tissent entre les personnages, notamment entre Agatha et l'adolescent mystérieux qui semble beaucoup lui tenir à cœur. L'ambiance est sombre et la série n'est pas recommandée pour les plus jeunes. Cependant, pour ceux qui sont sensibles comme moi, pas de panique, ça ne fait pas peur. Par contre, préparez des mouchoirs car la série peut parfois nous toucher en plein cœur et nous faire pleurer. La révélation à la fin de l'épisode 5 est tout simplement incroyable. Et voilà, un petit teasing pour vous mettre l'eau à la bouche. Vous n'êtes pas obligé de regarder WandaVision pour comprendre l'intrigue globale de Agatha Allelang, mais il est vrai que certains éléments du début de la série peuvent être un peu déroutants si vous n'êtes pas familier avec l'univers. D'ailleurs, petite anecdote, ma mère, qui sûrement écoute ça, coucou maman, qui ne connaît pas très bien l'univers de Marvel, voire pas du tout, a voulu voir Agatha Allelang malgré tout. Je lui ai conseillé de commencer par WandaVision et elle a adoré les 2 séries. Donc si vous n'êtes pas encore plongé dans l'univers Marvel, WandaVision et Agatha Allelang peuvent constituer un excellent point de départ, je pense. Les épisodes sont disponibles tous les jeudis en France et j'espère vous avoir donné envie de découvrir cette série. Pour ceux qui la connaissent déjà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et toi, JR?
Bah écoute, pour l'instant, je passe un bon moment. C'est pas la série de l'année, mais c'est une série qui est agréable à regarder. Les personnages sont attachant. Il y a 2-3 trucs que j'aime pas trop, mais encore une fois, dans l'ensemble, je trouve que c'est plutôt une très bonne série. Je réfléchis à si je peux dire autre chose, mais je pense que non, dans l'ensemble, c'est une très bonne série. On va passer du coup au deuxième, au film, ou bien tu veux parler directement de la deuxième série ?
Non, on parle du film d'abord.
Ok.
On finira sur une note positive.
On vous avait parlé de sel, et bien le sel est là. La dernière fois, on vous a parlé uniquement de films et de séries et de livres qu'on aimait bien. Il se trouve que cette fois-ci, ça ne sera pas le cas. Dans un premier temps, je remercie le cinéma Pathé Angers de m'avoir laissé voir ce film. Le film en question, c'est le nouveau film My Hero Academia, Your Next. Alors qu'est-ce que c'est My Hero Academia, Your Next ? Par où commencer ? Pour faire simple, voici le résumé. Un méchant fan de All Might arrive au Japon et veut prendre la suite de All Might pour être le nouveau symbole de justice. Seulement, ses méthodes sont discutables, on va dire, et nos héros vont devoir le défaire pour ramener la paix au Japon. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film ? Est-ce que vous connaissez la salle du temps de Dragon Ball Z ? Une salle où les héros vont s'entraîner et où le temps passe beaucoup plus vite chez eux que ce qui se passe réellement. Si en fait la salle du temps existait dans notre monde, ce serait cette fin de salle de cinéma. Deux heures se sont passées en dehors de la salle de cinéma et 1000 ans sont passés pendant la salle de cinéma. Le film est mauvais. Oh, mais bon, écoutez, on va commencer à argumenter et je vais commencer tout de suite par ces points positifs que j'en ai trouvé deux. Le premier est l'animation. L'animation est magnifique, il y a énormément d'impact frames qui sont impactantes et les chorégraphies sont magnifiques. Et sinon, le deuxième point positif, My Hero Academia est un manga qui est terminé. Du coup, revoir du My Hero Academia, c'est toujours agréable. Maintenant, parlons des points négatifs. Par quoi on va commencer ? On pourrait commencer par l'histoire. Plein de bonnes idées, mais toujours avec le mauvais choix. Prendre un successeur possible de All Might qui est fan de lui, mais qui aurait mal tourné, très bonne idée. Exploiter de la pire des manières. Prendre une histoire de mafia, très bonne idée, mais fait de la pire des manières. Au final, on se retrouve avec un overhaul au rabais. Ou overhaul de Wish, je crois qu'on peut le dire, overhaul de Wish, avec des méchants qui sont fades, avec des clichés à tout bout de champ. On retrouve le cliché de la femme dans le frigo, on retrouve le cliché du premier chevalier qui avait avant un pouvoir qui était parfaitement là pour pouvoir contrer le pouvoir du méchant ou le pouvoir de la femme dans le frigo qui est du coup l'autre femme qu'il faut aller sauver encore une fois. Parce que visiblement, les femmes qui ont un pouvoir assez fort, alors qu'il y en a plein dans la série qui peuvent se débrouiller dès qu'on arrive dans un film, vous comprenez. Ça m'énerve parce qu'en fait ils auraient pu faire quelque chose de bien. Et non, encore une fois, j'ai rarement voulu quitter une salle de spectacle avant la fin d'un film, et cette fois-ci c'était le cas, et vraiment j'ai eu du mal à finir ce film. Le méchant, il est méchant pour être méchant. Il est tellement méchant que vous rendez compte, il prend en otage des gens alors qu'il fait de la partie de la mafia. Attendez, la mafia prend en otage des gens, putain, première nouvelle. Il veut devenir l'homme le plus fort du monde pour dominer le monde, mais pour être le symbole de liberté et que tout le monde s'agenouille devant lui. Donc en gros, encore une fois, c'est ça. L'autre personnage qu'on découvre là-bas est encore une fois pas du tout exploité. Et c'est un anti-héros ténébreux qui ne parle pas beaucoup, mais qui va finir par s'ouvrir. On souffle tellement fort. J'ai vu des personnes s'endormir pendant ce film. Et quand je suis sorti, j'étais énervé. Bon, et si on doit continuer pour parler du méchant, son pouvoir n'a pas de sens. Il a juste pas de sens. Et quand il est battu, il est pas battu parce que face de du boss, on regarde en plus My Hero Academia ou est-ce qu'on joue en boss d'Elden Ring ? Bref.
Allez, on souffle.
Malgré tout ce que j'ai dit, allez le voir pour vous faire votre propre avis. Mais voilà, du coup... dernière chose, le rythme est pas bien géré. Pour la première partie du film, on se fait chier. Deuxième partie du film, on se fait chier aussi en fait. Bref. Voilà, donc My Hero Academia, Your Next, vous l'aurez compris, pas très bon avis. Mais malgré tout, voilà, c'était quelque chose qu'il fallait voir et j'espère que la prochaine fois, je serai peut-être un peu moins salé. Mel devait venir avec moi pour le voir, elle n'a pas été le voir, chanceuse. Mais dès que je suis parti, pour l'anecdote, dès que je suis parti, elle m'a dit « T'es au courant que ça va être de la merde ?» Et je t'ai dit « Non, ça va pas être de la merde, arrête !»
Alors,
merde.
Pour nuancer un petit peu, en fait, j'ai l'impression que l'animé My Hero Academia s'essouffle un petit peu. Je pense que je suis pas la cible aussi. Je n'aime pas les shonen pur et dur comme ça d'habitude. My Hero Academia est l'un des rares shonen que j'arrive à suivre assidûment et à continuer en animé. honnêtement, tout ce qui est Naruto, One Piece, Bleach, etc., j'ai arrêté. Donc, du coup, et quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai vu du réchauffé, justement, avec Overhaul.
C'est que ça.
Et ça m'a pas hype. Donc, voilà, j'ai hâte quand même de finir l'animé, mais le film, je souffle. Voilà.
On va très vite passer du coup sur la dernière série. Je suis en train de voir le temps en fait, et du coup, on va juste parler très rapidement d'un événement qu'il y a eu dans le monde de l'animation, qui est du coup la sortie du dernier film Miraculous. On n'aime pas, mais nous on l'a regardé et on a bien aimé. On finit sur une note positive.
Connaissez-vous Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat Noir? Vous avez sûrement entendu parler de cette série, que ce soit par les épisodes diffusés à la télé, sur une plateforme de streaming, ou même à travers les nombreux goodies comme des sacs à dos pour enfants, des poupées. Bref, la licence Miraculous, elle est partout, souvent sans qu'on s'en rende compte. Le 5 octobre, nous avons eu la chance d'assister à la sortie du Miraculous spécial Londres. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec Miraculous, sachez que les Special World sont des épisodes uniques, plus longs que les épisodes habituels, mais plus courts qu'un film classique durant environ 50 minutes. Chaque épisode spécial est affilié à un pays différent, et il est important de rappeler que la série se déroule en France, plus précisément à Paris. Mais aujourd'hui, nous parlons du spécial Londres. Préparez-vous, car je vais devoir spoiler un peu la fin de Miraculous saison 5. Dans cet épisode, Ladybug, épuisée après son combat avec son ennemi de toujours, doit annoncer à son petit ami Adrien, qui ignore que Ladybug est en fait sa petite amie Marinette, que son père est décédé, le laissant orphelin. Super. Dépassée par les événements, la super-héroïne décide de prendre un moment pour se reposer. Mais lorsqu'elle s'endort paisiblement en tant que Marinette, un tremblement la réveille. Quelqu'un a formulé le vœu ultime. Mais comment est-ce possible? Elle vient juste de détruire son ennemi. Apparemment, un autre individu a réussi à voler ses Miraculous. Avec l'aide d'une autre héroïne qui manipule le temps, Ladybug doit absolument découvrir et neutraliser ce nouveau méchant afin d'éviter une destruction totale du monde. J'ai adoré cet épisode spécial. Il est sombre, triste et rempli d'émotions. Ladybug devient une super-héroïne désabusée, badass et perspicace. Cette série a depuis longtemps dépassé le cadre d'un simple divertissement pour enfants, et cet épisode montre à quel point la série a mûri, grandissant avec ses spectateurs. L'animation en 3D est toujours sublime, et cet épisode est sans conteste l'un des meilleurs que j'ai vu. Alors n'hésitez pas à vous plonger dans l'univers de Miraculous, car cet épisode mérite vraiment d'être vu. Et toi Gert, tu l'as bien aimé?
Moi, j'ai bien aimé. Encore une fois, désolé, je ne vais pas pouvoir beaucoup plus dire que j'ai beaucoup aimé, parce que j'aime bien la série originale. Je vois le temps et je vois que du coup, on arrive au temps où on va faire la deuxième pause musicale. Avant de partir sur notre pause musicale, je rappelle simplement que vous êtes sur Radio G 100.5 FM, radio disponible en FM ou en DAB+, et que vous écoutez Pop Clash. On se retrouve tout de suite après la pause musicale pour lancer les dés, et on finira par une petite chronique, du coup, le Brick Back.
And when the dawn emerges slowly,
Et on est de retour. Et du coup, on dit
rebonjour.
Et rebonjour, Belle, désolé.
Excuse-moi.
Et non, mais t'en fais pas, t'as pas à t'excuser pour tout et n'importe quoi. On va tout de suite reprendre du coup avec la rubrique Lancer les dés. On se retrouve tout de suite après ce petit générique.
La chronique JDR lance les dés avec JR.
Alors, aujourd'hui, on lance les dés sur quoi exactement ? Aujourd'hui, on lance les dés sur Tales from the Loop. Tales from the Loop, c'est quoi ? C'est un petit GDR qui est sorti en 2019 aux éditions Arkham Asylum et qui nous met dans la peau d'adolescents. D'adolescents qui vont entre 10 et 15 ans et qui sont mis face à des événements qui sont surnaturels. Le système utilise un système de D6. Et c'est un système qui est propre du coup au jeu. Quand on fait en 6, on réussit. Quand on fait autre chose, on rate. On a plein de choses qui nous permettent de nous aider à avoir des 6. Mais là n'est pas la question. Qu'est-ce que c'est exactement Tales from the Loop ? Tales from the Loop, c'est du coup le GDR qui nous plonge dans un passé un peu fantasmé, un peu anachronique, dans le sens où, dans les années 80, l'humanité aurait trouvé quelque chose qui s'appelle le loop. Le loop a permis un énorme bond technologique, ce qui fait que à l'époque où on joue dans ce jeu de rôle, c'est-à-dire dans les années 80, tout ce qui va être robots, voitures volantes et haute technologie fantasque qu'on n'a pas encore aujourd'hui, existe déjà. Mais cela a aussi entraîné un certain nombre de choses qui ne sont pas spécialement enviables. On va parler de trous de verre dans lequel, par exemple, des hommes de compagnon peuvent sortir, de robots qui deviennent fous, de maladies qui se déclenchent, ou encore tout simplement d'adultes qui disparaissent. Vous serez du coup, dans cette ambiance qui va un peu vous rappeler les Goonies ou Stranger Things, poussé à mener l'enquête et à résoudre ces enquêtes sans l'aide des adultes qui ne vous croient évidemment jamais. Est-ce qu'on aime cet univers ? Moi personnellement, c'est un de mes univers de cœur. Je suis très triste parce que actuellement, que ce soit Tales from the Loop ou Things from the Flood, qui est son petit frère dont on parlera une autre fois, ça devient de plus en plus dur en fait de trouver les livres ou alors de manière extrêmement chère. C'est directement lié à l'état en fait de l'industrie du jeu de rôle aujourd'hui, qui est détenu par un certain nombre de maisons d'édition qui font ce qu'ils veulent en fait avec les univers. Mais c'est un autre sujet. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire parce que je pourrais faire une chronique entière sur Lance les dés sur l'état actuel en fait du commerce de jeux de rôle. Mais voilà, je vous conseille de jouer à Tales from the Loop. Le livre est normalement trouvable à 39,99€. Vous pouvez le trouver à Sortilège, au repère des héros et aussi du coup à la Fnac. Tout est bien dans le jeu. Les différents archétypes sont cool à trouver, sont cool tout simplement, que ce soit le hillbilly, que ce soit le rôliste, parce que vous pouvez jouer en rôliste, qui joue en rôliste, et c'est bien. Tous les archétypes sont différents, avec leurs propres points forts et points faibles, ce qui pousse les différents, en fait, joueurs à jouer, en groupe, ce qui est le but, en fait, du jeu de rôle. C'est un jeu de rôle, par contre, qui n'est pas à mettre entre toutes les mains pour une raison très simple, c'est que les combats ne sont pas au centre en fait de ce jeu de rôle. C'est un jeu de rôle qui est très basé sur le roleplay. Ah, c'est bizarre pour un jeu de rôle ça quand même. Et qui pousse souvent les joueurs dans leur dernier retranchement. Petit point fort pour les personnes qui sont particulièrement sensibles. Dans cet univers, on ne peut pas mourir. Étant donné qu'on joue des enfants, les joueurs ne peuvent pas mourir parce que je pense que tuer un enfant était peut-être vu comme trop dur à l'époque. Il y a trois grands terrains de jeu au sein de cet univers, c'est-à-dire trois loops. Il y a le loop finlandais, qui est le loop de base. Le loop français, qui se trouve du coup dans les Alpes, dans lequel on peut aussi retrouver une petite entreprise qui visiblement n'est pas très nette. Et enfin, on peut retrouver un dernier loop aux États-Unis au niveau de la rue. Chacun de ces loops a sa propre histoire, a ses propres monstres, a ses propres ennemis. Et du coup, ça nous permet en fait d'avoir une certaine rejouabilité. Et puis même si vous voulez rajouter de nouvelles choses, GDR oblige, vous pouvez le faire. Voilà pour mon avis. Moi, c'est quelque chose que je vous conseille de faire. Ça change, c'est agréable, c'est en vent frais. Et s'il vous plaît, Dark Asylum, relancez la production de que ce soit Tales from the Loop ou de Things from the Loop. C'est un JDR qui plaît, c'est un JDR qui a eu des médailles d'or comme étant le meilleur JDR de l'année plusieurs fois, 5 fois d'affilée. Donc voilà, donc juste faites-le s'il vous plaît. Toi Mel, qui as déjà joué, qu'est-ce que t'en penses?
Oui, moi j'y ai déjà joué 2-3 fois. Alors moi je suis pas une experte en JDR, mais j'avais bien aimé, surtout que comme JR l'a dit, il y a beaucoup de roleplay et du coup c'est ce que je préfère en fait. Moi les combats, j'aime pas trop ça. Et ouais, et puis l'univers des années 80 avec un style un peu futuriste et en même temps pas trop non plus, j'aime beaucoup. Donc voilà, j'avais bien aimé, c'était une bonne expérience.
Petit point en plus que j'aimerais rajouter, c'est que le livre Tales from the Loop et Things from the Flood sont des livres qui ont été illustrés évidemment comme tout livre de JDR et qui sont juste beaux. Ce sont de très belles images. Bon là on est à la radio, du coup je peux pas vous montrer d'images, mais c'est très beau. Chacun des dessins en fait pourrait servir de carte postale. La prochaine fois, je parlerai probablement du petit frère de Tales from the Loop, qui est du coup, moi encore une fois, quelque chose qui me tient énormément à cœur, qui est Things from the Flood. Pour vous faire un petit teaser, Things from the Flood, c'est la suite directement de Tales from the Loop, donc vous jouez des pré-adultes qui vont entre 15 et 20 ans. Il y a deux loops principaux là-bas, mais on en parlera plus tard, mais encore une fois, on en retrouvera en France, et sachez juste une chose, Things from the Flood, en France, a été écrit par Maillard, qui est assez connu. Sans transition, on va passer à notre dernière chronique qui n'est d'autre que le bric-à-brac. On lance tout de suite le générique et on se retrouve juste après. Quiz, blind test et surprise, bienvenue dans le bric-à-brac avec Mel et JR. Et on est de retour encore une fois, mais du coup pour le bric-à-brac, Mel, qu'est-ce qu'il y a au programme?
Alors, dans le bric-à-brac aujourd'hui, nous avons eu des questions de nos auditeurs et auditrices. Je crois qu'aujourd'hui, en fait, il n'y a que deux auditrices. Coucou Faustine et coucou Osk qui ont posé quelques questions sur la pop culture. Donc, on va essayer d'y répondre et puis après, on finira par un petit jeu qui est un « tu préfères ». Et le but du jeu est simple. Chacun notre tour, on se pose des questions et on doit y répondre. Bien évidemment, ceux qui écoutent l'émission, n'hésitez pas à participer avec nous. C'est fait pour ça. Et ensuite, nous terminerons l'émission comme ça.
Ok, alors on va commencer tout de suite avec les deux petites questions de Oz qui sont très rapides à répondre. Elle pose avec un peu d'humour. Pourquoi est-ce que Ubisoft et Activision sortent toujours le même jeu? Je vais faire une réponse courte et simple. Parce que ça marche et que parce que les gens l'achètent et que si les gens l'achètent, pourquoi faire autre chose? Certains diront oui, mais les jeux sont moins en moins bons. C'est vrai. Mais tant qu'on l'achètera, ça partira.
Oui, et puis regarde par exemple Nintendo. Ils ont des licences qui sont là depuis plus de 20 ans, hein.
Oui.
Zelda, Mario, etc. Ça marche. Après, bon, Nintendo se renouvelle souvent. Leur jeu, c'est la même licence, oui, mais il n'y a pas un seul jeu pareil, aussi bien au niveau de l'histoire que de la construction. Donc,
exactement.
Je pense que c'est ça. Après, je connais pas très bien les jeux d'Activision
ça,
et Ubisoft.
Assassin's Creed, tout ça. Et deuxième question. Pourquoi est-ce que FIFA se vend alors que c'est toujours la même chose? Parce que tu comprends, on rajoute de nouveaux joueurs et que voilà. Non, plus sincèrement, moi j'ai donné mon avis. Je comprends les gens qui achètent le nouveau FIFA parce qu'en fait, si on n'achète pas le nouveau FIFA, on ne peut pas jouer en ligne et du coup, en fait, on est bloqué. Mais pour moi, c'est le plus gros vol et la plus grosse arnaque du monde. J'aime beaucoup les jeux de sport, mais les jeux FIFA, on souffle encore une fois. Vous pourriez juste faire des mises à jour gratuites, vous savez. C'est pas comme si vous étiez en déficit budgétaire. Ubisoft. Bref, dernière question de Faustine.
Oui, et la question de Faustine, je sais que tu écoutes donc coucou, est-ce que Zelda Echoes of Wisdom a fait un bon démarrage en termes de vente, etc. À ton avis, JR, est-ce qu'il a fait un.
Il a fait un des meilleurs départs de jeu, je crois, de cette année. Et d'un autre côté, le jeu a l'air bon, donc c'est mérité.
Eh bien oui, Zelda Echoes of Wisdom a fait un bon démarrage, plus particulièrement au Japon et au Royaume-Uni. Cependant, il ne faut pas oublier que ce nouveau Zelda est un jeu 2D. On ne joue pas Link, mais Zelda. Le pouvoir des Echoes sont nouveaux et tout ça, ça fait que ce jeu sort totalement des sentiers battus de la licence. Il a réussi malgré tout à se positionner deuxième du coup au Royaume-Uni et le jeu est malgré tout très bon. Salué par la critique et populaire, mais il ne fera jamais par exemple un aussi bon démarrage que Zelda Breath of the Wild qui avait révolutionné le jeu de la licence Zelda ou même la suite Direct Zelda Tears of the Kingdom, qui sont des jeux à monde ouvert, en 3D, etc.
Ce sont des bangers, il faut le dire.
Ce sont des bangers, clairement, mes jeux préférés, et qui avaient fait 10 millions de ventes rien qu'à sa sortie, le premier jour de sa sortie. Donc oui, Zelda a fait un bon démarrage pour un Zelda 2D. Voilà, c'était les questions. Et maintenant, on va passer au tu préfères. Alors,
peut-être qu'on peut aussi dire que je crois que la prochaine fois, il y aura une critique de Zelda, vu que toi, tu auras fini d'y jouer, que moi, j'aurais commencé à y jouer.
Alors, oui, peut-être qu'il y aura une review de Zelda Echoes of Wisdom. Petit teasing pour la prochaine émission.
Mais
on verra.
Passons à tu préfères. Je me permets de commencer ?
Tu peux commencer.
Ok, tu préfères vivre dans le monde de The Last of Us ou dans le monde de Resident Evil ?
C'est pas vrai, j'ai posé la même question.
Bah, c'est pas grave.
Exactement la même.
On en trouverait une autre plus tard.
Et
allez.
The Last of Us version série ou version jeu vidéo ?
Les deux.
Alors, si c'est The Last of Us version série, je vais clairement dans la série parce qu'il y a Pedro Pascal. Voilà. Et que alors, du coup, il pourra nous protéger.
Si je peux me permettre, on va dire que Resident Evil, t'as une chance de survie. The Last of Us, c'est des champignons qui rentrent dans ta tête et qui te bouffent de l'intérieur. Tu ne survis pas dans The Last of Us. Mais écoutez, chacun son avis. T'as signé ton arrêt de mort ? À toi de poser la question.
Resident Evil me fait beaucoup plus peur.
Je comprends.
Honnêtement. JR, tu préfères ne plus jamais lire de livres, mangas, etc. ou ne plus jamais jouer aux jeux vidéo ?
Ah, aucun des deux. Sincèrement, je pense que je préférerais ne plus jamais jouer à des jeux vidéo. La lecture, pour l'instant, ça prend un très très grand pan de ma vie. J'aimerais bien travailler dans le monde du livre, donc si je ne peux plus lire, je serais baisé. Et autant les jeux vidéo, je suis sûr que je peux essayer d'un peu, je peux moyenner en compensant par du JDR. Ok, à mon tour, est-ce que tu préfères vivre dans le monde de Elden Ring ou dans le monde de Starship Troopers? Starship Troopers, c'est l'endroit où il y a des grosses araignées qui bouffent des humains.
Alors,
et c'est un peu une dystopie, mais bon, bref.
Je connais pas Starship Troopers, mais si tu me dis qu'il y a des araignées, je vais directement dans Elden Ring. Voilà, okay. Je me cache quelque part dans Elden Ring.
Donc tu préfères un monde qui est en train de se détruire. Non mais je comprends, qu'à chaque fois tu signes ton arrêt de mort. Dernière question pour toi, et après on va arrêter l'émission.
Tu préfères ne plus jamais aller sur ton téléphone ou ne plus jamais aller sur ton ordinateur ?
Plus jamais aller sur mon téléphone, en plus j'aurai la paix. Voilà ! Question plus dure, s'il vous plaît.
Et la dernière question, du coup, c'est à ton tour. Et puis, on aura...
Dernière question, tu préférerais... Ok, donc dernière question, tu préfères... Encore une fois, ça va être tu préfères vivre. Tu préfères vivre dans le monde de Zelda, Breath of the Wild ? Ou dans un monde qui est fini, ou dans le monde de Outer Wild. Avant que tu me dises que tu ne connaisses pas, le monde d'Outer Wild, quand on joue au jeu, c'est un monde qui se finit au bout de 12 minutes.
Je préfère clairement aller dans le monde de Zelda, Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, plus Tears of the Kingdom, hein, pas Breath of the Wild.
Non, Breath of the Wild.
C'est dur parce que je préfère quand même l'univers de Tears of the Kingdom. C'est à peu près la même chose, mais il y a plus de trucs sympas dans l'univers.
C'est un peu plus la merde. Sur ce, on peut vous dire au revoir.
Au revoir.
Et à la prochaine.
Salut.
Des bisous. Salut.